Comme vous le savez, je suis passionné d'urbex. J'ai déjà visité plein d'endroits insolites comme j'ai pu vous le raconter dans les précédents épisodes. Mais il y a quelque chose que je rêve de faire, c'est de visiter un hôpital abandonné. Je sais, je suis fou, mais j'ai vu beaucoup de vidéos sur internet et ça m'a toujours fait fantasmer. J'ai justement eu l'occasion de le faire, mais mon rêve est vite devenu mon pire cauchemar. Je vais vous raconter ce qu'il s'est réellement passé lors de ma visite dans ce que l'on appelle la clinique du diable. Il est 21h, il fait nuit, je suis seul. Pas un bruit, juste celui du craquement des arbres à cause du vent. Car oui, je suis en plein milieu d'une forêt. Comment je me suis retrouvé ici? Vous vous souvenez? Je viens tout juste de m'enfuir des catacombes interdites après avoir vu un rituel satanique s'y produire sous mes yeux. Cette forêt, à l'ouest de Paris, n'est connue de personne. Elle n'apparaît sur aucune carte ni aucun plan. Nul n'en connaît l'existence. Je dois partir d'ici. Je me suis retrouvé là par accident en m'échappant des catacombes. Je dois maintenant rentrer chez moi. Mais comment faire? Il n'y a que des arbres à perte de vue. Mais attendez, je vois un grand bâtiment au loin. On dirait qu'il y a de la lumière. Je vais aller voir. Je commence à marcher quand soudain j'entends un bruit derrière moi. Je me retourne, il n'y avait personne. Pourtant, j'entends des bruits de pas qui se dirigent vers moi lentement. Au loin, dans l'obscurité de la forêt, j'aperçois des yeux jaunes brillants. Ils me regardent, ils me fixent. J'ai le cœur qui se met à s'emballer. Je panique. C'est peut-être un animal, je sais pas. Dans le doute et la peur, je prends la fuite et je me mets à courir loin de cette chose. Quelques centaines de mètres plus loin, cette créature aux yeux jaunes semble avoir disparu. Je peux enfin souffler. Je me retrouve devant le grand bâtiment. Il est immense et fait au moins 5 étages de haut. Il semble abandonné et en mauvais état. Il y a des tags sur les murs, des fenêtres manquantes, mais de la lumière derrière une fenêtre tout en haut à droite attire mon attention. Il doit y avoir quelqu'un à l'intérieur. J'hésite un instant avant de m'y aventurer, mais de toute façon, je n'ai pas le choix. Je suis seul, perdu au milieu d'une forêt. Il faut que je trouve de l'aide. J'avance en direction d'une porte. Juste à côté, il y a une plaque collée au mur où il est écrit « Hôpital psychiatrique du Grand Ouest ». Au même moment, j'entends une femme crier très fort. Ça semble venir du milieu de la forêt derrière moi. Je ne vois rien, il fait complètement nuit. J'entre à l'intérieur sans plus attendre. Je me retrouve dans un grand hall d'entrée, immense, mais complètement délabré. Les murs en béton sont tout effrités et tagués. Mes pas résonnent sur le sol. Avec la lumière de ma lampe torche, j'aperçois aux quatre coins de la pièce de longs couloirs avec des flèches rouges indiquant des directions. C'est très curieux. On se croirait dans un jeu. Je suis confus. Je ne sais pas où aller. Je décide de me diriger là où j'ai vu de la lumière, sur la droite. Je traverse un long couloir étroit. C'est un ancien hôpital psychiatrique. Il y a donc des chambres de chaque côté. Et avec le vent, les portes grincent et claquent toutes seules. C'est assez angoissant. Je reste méfiant. Je ne sais pas sur qui je peux tomber. Je marche lentement et prudemment, ma lampe torche dirigée loin devant. Il y a de la poussière, des débris partout et des trous dans certains murs. Comme s'il y avait eu une explosion ou je ne sais quoi. Toujours ces flèches rouges semblant indiquer une direction avec des messages bizarres. Au bout du couloir, il y a un grand escalier en bois, avec certaines marches manquantes, d'autres moisies. J'ai peur de monter là-dessus. Je ne voudrais pas me tuer, mais il le faut. C'est tout là-haut que j'ai vu de la lumière. Il faut que j'y aille. Je monte quelques marches. Le bois craque sous mes pas mais résiste. Je suis prudent. Sur les murs, il y a des écritures bizarres. Il est écrit « Chemin de la mort » ou bien encore « Le diable t'attend » en grandes lettres rouges. J'essaye de ne pas faire attention à tout cela, même si au fond de moi, je suis terrifié. Je continue mon chemin et arrive au 5e étage. Au bout du couloir, il y a une porte entrouverte laissant entrevoir de la lumière. Prudemment, je me dirige vers la porte. Je crie « Il y a quelqu'un ?» Mais personne ne me répond. Je vois pourtant des ombres passer derrière. Je ne suis pas seul, c'est certain. J'ai le cœur qui bat de plus en plus vite. Mais qui peut bien être en plein milieu d'un hôpital abandonné en pleine nuit? Je commence à regretter d'être ici. Mais je suis là, alors autant aller jusqu'au bout. Soudain, j'entends à nouveau cette femme crier en plein milieu de la forêt. Je regarde par une fenêtre sur ma droite à l'extérieur, mais je ne vois rien. Tout à coup, la porte du bout du couloir se ferme brusquement. La lumière s'éteint. Je sursaute. Visiblement, on ne veut pas de moi ici. Je ne suis pas le bienvenu. Avez-vous déjà connu cet état quand vous êtes tellement stressé que vous en perdez la raison? C'est exactement ce qu'il s'est passé à partir de ce moment. En courant, je vais vers la porte où il est écrit « La morgue » en lettres rouges. Il n'y avait personne. Juste une grande chambre dans le noir total avec en plein milieu un vieux lit d'hôpital vide. Sur les murs, plein de dessins étranges. des symboles que je ne comprends pas, mais qui ne signifient rien de bon. Je me retourne. Yaya est ici, est écrit en grandes lettres dégoulinantes. Ça ressemble à du sang, et c'est tout frais, ça vient d'être fait. Au bout du couloir, la silhouette que j'avais vue dans la forêt tout à l'heure, elle est là. Elle se dirige vers moi, avec ses yeux jaunes brillants transperçant l'obscurité. Je suis tétanisé. Elle s'approche de plus en plus vers moi, seconde après seconde. Dans ma tête, tout se mélange. Je ne sais plus où je suis ni qui je suis. Je suis au bord de la crise cardiaque et d'un coup, tout s'éteint. Je rouvre les yeux. Il fait grand soleil. Je suis assis par terre à l'extérieur devant l'hôpital. J'ai un peu la nausée. Je me sens tout bizarre. Ma montre indique 8 heures du matin. Je ne comprends pas ce qu'il m'arrive et je mets un moment à me souvenir où je suis, comme si j'avais une amnésie. Soudain, un groupe de 4 personnes sortent de nulle part et viennent me voir. Ils me demandent si je vais bien, et ils m'expliquent ce qu'il s'est passé. Ils faisaient aussi de l'urbex comme moi, et m'auraient entendu crier à l'aide. Ils sont alors venus me chercher et ils m'ont trouvé allongé au sol, dans une chambre au 5e étage, inanimée. Il semble que j'ai fait un malaise. Ils m'ont donné une couverture pour que je me repose en attendant de me réveiller. Peu à peu, je reprends mes esprits. Ils me mettent en garde que je ne devrais pas venir ici seul, que c'est très dangereux, qu'il y a déjà eu plusieurs enlèvements et crimes commis ici, dans la forêt. Ils sont venus en voiture par un petit chemin secret. Ils me proposent de me ramener chez moi. Je monte avec eux. Sur la route, ils me racontent l'histoire de cet hôpital si étrange. Ce serait un ancien hôpital psychiatrique datant de l'après-guerre et qui abritait les fous les plus dangereux d'Europe. Il y a 20 ans, il y aurait eu un grave incendie qui aurait détruit l'hôpital et tous les pensionnaires se seraient enfuis et n'auraient jamais été retrouvés. Il se raconte que certains se cachent encore ici, dans la forêt et dans le village voisin, qui est lui aussi abandonné et tombé en ruine. Avant, il y avait une station de métro qui conduisait à l'hôpital, mais elle fut condamnée elle aussi. Plus sombre encore, selon la légende, l'hôpital était très mal réputé. Il y avait beaucoup de rumeurs sur des faits de satanisme et autres phénomènes étranges. Les lieux seraient hantés et les malades qui étaient internés ici n'en ressortaient jamais. Ils devenaient encore plus fous. L'hôpital est surnommé la clinique du diable. Un démon nommé Yaya aurait pris possession des lieux depuis plus d'un siècle. Il torturait les âmes de ses modestes pensionnaires pour en faire des adeptes prêts à faire n'importe quoi pour le servir. Il les aurait réunis dans une secte qui s'appelle la Révolte, qui a pour seul but de contrôler et détruire le monde. Il les aurait poussés à mettre le feu à l'hôpital pour qu'ils puissent tous s'enfuir, et ainsi mettre en exécution son plan diabolique. De nos jours, on ne trouve que très peu d'informations à ce sujet, voire pas du tout. Pourtant, à l'époque, il y avait plein de preuves. On dirait que tout a été effacé. Mais par qui? Et pourquoi? C'est très étrange. Il se raconte que cette secte existerait toujours, que ses membres se cacheraient dans les lieux secrets comme les catacombes interdites. Je vous le raconte dans l'épisode La Secte. Tout ce qu'il me raconte me fascine et me donne beaucoup de réponses pour mes recherches sur cette secte. Une heure de route plus tard, et bientôt arrivé chez moi, je les remercie de m'avoir raccompagné. Juste avant de descendre de la voiture, je leur dis que je suis allé explorer les catacombes interdites et que j'ai vu des choses très bizarres là-bas, qu'il y a peut-être des preuves de l'existence de cette secte. Ils me répondent que eux aussi, ils sont allés là-bas, qu'ils ont vu un temple satanique et qu'après avoir vu un homme se cacher derrière un rocher, ils se sont enfuis. À ce moment, une sueur froide me traverse le corps. Je ne dis rien, descends de la voiture et rentre chez moi. Rien ne vous semble étrange? Vous vous souvenez de mon aventure dans les catacombes que je vous avais racontée? Quand je me suis retrouvé dans le temple satanique, j'ai vu des hommes de la secte arriver et je me suis caché derrière un rocher. Et si c'était eux? S'ils faisaient partie de cette secte? S'ils savaient que c'était moi ce soir-là, ils m'auraient sans doute tué. Il est déjà 7h du matin, la nuit est passée vite. Je suis encore fatigué, mais tant pis. Je dois me lever, le réveil vient de sonner. C'est étrange, il y a comme un nuage de brume sur le sol de ma chambre. La lumière est toute bleue, comme si nous étions dans un film. J'essaye de me lever du lit, mais je n'y arrive pas. Je suis comme cloué au matelas, je ne peux pas bouger un seul doigt. On dirait que quelque chose me retient. J'essaye de me débattre, mais rien n'y fait. Je n'arrive pas à bouger du moindre centimètre. J'ai l'impression qu'une force surnaturelle contrôle tout mon corps. C'est très curieux comme sensation. Je suis à la fois conscient, mais pourtant prisonnier de mon corps. C'est comme si mon esprit était ailleurs, pas ici avec moi. Est-ce que je suis en train de faire un rêve, ou plutôt un cauchemar? J'ai pourtant la sensation d'être réveillé et conscient de tout ce qu'il se passe. Ça arrive souvent de faire des rêves qui paraissent réels, mais là c'est différent. je suis certain que je suis réveillé. Quelques minutes plus tard, j'entends soudainement des bruits qui semblent venir de la cuisine. Comme si quelqu'un était en train de manipuler les assiettes et les couverts. Alors que je vous le rappelle, je vis seul. J'entends des bruits de pas se diriger vers la porte de ma chambre. Soudainement, la porte s'ouvre doucement. Il n'y a personne derrière. Elle vient de s'ouvrir toute seule. C'est peut-être un courant d'air, je ne sais pas, mais c'est assez troublant. Tout d'un coup, j'aperçois une ombre qui ressemble à celle d'un humain, se déplaçant le long du mur et faisant le tour de la chambre. Puis, l'ombre s'arrête, reste immobile pendant quelques secondes. Et là, tout d'un coup, sort une créature du mur. Comme si l'ombre venait de prendre vie et s'est transformée en un véritable monstre. Cette chose se dirige vers moi, me saute dessus dans mon lit et essaye de m'étouffer en me serrant le cou. J'essaye de me débattre. Je ne peux toujours pas bouger. Je suis complètement figé. Puis tout d'un coup, je me réveille en sueur et essoufflé, comme si je venais de courir 10 km. Cette fois-ci, je suis bien réveillé. Il n'y a plus de brume autour de mon lit. Je suis libre de mes mouvements, je peux bouger comme bon me semble. Bien sûr, il n'y a personne dans la chambre. L'ombre a disparu. Il n'y a aucun monstre ou autre créature du genre. Tout cela n'était qu'un cauchemar ? Visiblement oui, mais ça paraissait tellement réel. Jusqu'ici, rien d'alarmant. J'ai déjà fait ce genre de cauchemar plusieurs fois dans mon enfance, et je n'y ai jamais accordé trop d'importance. Mais un jour, j'ai découvert à travers un reportage à la télévision que je n'étais pas le seul à vivre ce genre d'expérience, que des millions d'autres personnes dans le monde font exactement les mêmes cauchemars, avec les mêmes apparitions, et cette sensation d'être prisonnier sans pouvoir bouger de son lit. J'ai donc fait la découverte de ce que l'on appelle les paralysies du sommeil. Intrigué, je me suis renseigné au maximum sur le sujet, et j'ai fait des découvertes troublantes. Nous sommes des millions à relater les mêmes caractéristiques. La brume, les ombres, les monstres, la sensation de paralysie. Nous vivons tous plus ou moins la même expérience. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. C'est une expérience très traumatisante. Ce qui est le plus troublant, c'est cette impression que tout cela est réel au moment où vous le vivez. L'impression que vous allez mourir. L'impression que vous êtes paralysé et que vous ne pouvez plus bouger. Ce n'est pas un simple cauchemar, il y a vraiment des sensations réelles. Et bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, cette expérience laisse des séquelles. Certaines personnes en arrivent au point d'avoir peur de dormir, peur de la nuit, peur de perdre le contrôle de son corps une fois de plus. Ça devient une véritable angoisse. Je ne sais pas vous, mais ce phénomène m'intrigue beaucoup. Ça me paraît assez étrange. Il y a quelques explications à ce phénomène. J'ai donc fait la découverte des Shadow People. Les Shadow People sont ces fameuses ombres en forme d'humain qui apparaissent lors des paralysies du sommeil. Dans la communauté du paranormal, on les associe à une présence occulte, un démon, un esprit. C'est comme si ce dernier venait vous hanter dans vos rêves, vous kidnapper pendant que vous dormez et vous torturer l'esprit. Il essaye de vous attraper et de vous retenir en otage dans votre sommeil, pour prendre votre énergie, prendre votre corps, prendre votre âme. Qu'en pensez-vous ? Est-ce réel ? Est-ce de la fiction ? C'est très difficile de trancher et de répondre à cette question. Personnellement, ayant vécu beaucoup de phénomènes paranormaux, je veux bien croire que ce soit la manifestation d'un esprit ou de quelque chose d'autre. D'ailleurs, les Shadow People n'apparaissent pas seulement lors de paralysies du sommeil. Ils peuvent également apparaître sur de vieilles photos, dans des coins sombres de votre grenier ou de votre maison par exemple. Une chose est certaine, c'est que ce phénomène n'a pas fini de faire parler de lui. De plus en plus de personnes partagent leurs expériences et leurs témoignages.
Je m'appelle j'ai 65 ans. J'ai toujours eu un pied dans la politique. À 25 ans déjà, je travaillais au conseil régional et je m'occupais également de nombreuses associations caritatives. J'avais beaucoup d'ambition dans la vie. Je voulais devenir un homme riche et puissant. Je pensais que la politique m'apporterait tout cela. Les années se sont écoulées, j'ai gravi les échelons petit à petit pour occuper des postes toujours plus importants. J'étais souvent amené à faire des déplacements partout en France, durant lesquels je faisais des interventions et de nombreuses conférences. C'est d'ailleurs pendant l'une d'entre elles que ma vie a changé du jour au lendemain. J'avais 30 ans. J'étais en déplacement à Paris pour donner une conférence sur l'évolution des droits de l'homme en Europe occidentale. C'était dans un grand amphithéâtre. Nous étions plusieurs centaines de personnes ce jour-là. Tout s'était très bien passé. Il faut dire que j'avais l'habitude de ce genre d'événement. À la fin de la conférence, nous étions tous conviés à un buffet dans une petite salle juste à côté. C'était l'occasion d'échanger nos idées, de faire des rencontres et de bien enrichir son carnet d'adresses. C'était un exercice que j'aimais beaucoup et sans vouloir me vanter, j'étais plutôt doué. Au fil du temps, j'avais réussi à me constituer de très bonnes relations et un excellent réseau. Ce jour-là, trois hommes habillés en costume noir, très élégants, se sont approchés de moi. Ils ne ressemblaient pas aux autres. Ils semblaient venir d'un autre monde. Très gentils et courtois, ils m'ont remercié pour la conférence et m'ont dit qu'ils étaient très impressionnés par mon éloquence. Je ne les connaissais pas, mais ils semblaient bien me connaître. Mon parcours professionnel et politique. Ils savaient tout de moi. C'était très flatteur, mais assez étrange. Nous avons discuté pendant une dizaine de minutes, puis ils ont commencé à me dire que ma place n'est pas ici, que je mériterais d'évoluer dans un environnement beaucoup plus prestigieux. Ça ressemblait à une proposition d'embauche. Pour qui ou pourquoi, ça je ne le savais pas encore. Ils ont pris mes coordonnées et sont partis. Une semaine plus tard, alors que j'étais toujours en déplacement à Paris, ils m'ont donné un rendez-vous dans un restaurant du 16e arrondissement, dont je ne me souviens plus du nom, veuillez m'en excuser. À l'époque, je n'étais pas très méfiant. J'avais tellement envie d'évoluer dans la vie que j'étais prêt à tout pour y arriver. J'arrive donc sur le lieu du rendez-vous et je me retrouve dans une rue complètement déserte, sans aucune trace d'un restaurant. Je pensais m'être trompé d'adresse, mais c'est à ce moment-là que je reçois un coup de téléphone. C'était l'un des trois hommes. Il me demande où je suis, je lui réponds que je suis arrivé au lieu de rendez-vous, mais je pense m'être trompé d'adresse. C'est alors qu'une porte s'ouvre et je reconnais cet homme que j'avais rencontré une semaine plus tôt. Je le suis et rentre à l'intérieur. Il referme la porte à clé, nous nous retrouvons dans un hall d'entrée plutôt prestigieux. Je ne me pose pas de questions, je n'en ai pas le temps. Nous arrivons dans un grand bureau de ministre. Il n'y avait que lui et moi. Les deux autres hommes qui étaient présents avec lui l'autre soir n'étaient pas là. Je ne les ai d'ailleurs jamais revus. On parle pendant environ 20 minutes, de philosophie, de politique, de tout ce que je fais dans la vie et de nos centres d'intérêt. Au fil de la conversation, il commence à me parler d'une association de personnes qui se réunissent une fois par mois pour échanger des idées politiques et philosophiques. Sans m'en dire plus, il me demande si ça m'intéresserait de les rejoindre pour faire partie de leur groupe. J'étais jeune, j'avais beaucoup d'ambition, et sachant que ça ne me coûterait rien, j'ai accepté la proposition sans trop savoir dans quoi je m'étais engagé. J'ai dû leur envoyer mon CV et rédiger une lettre de motivation avant de pouvoir être accepté à rejoindre leur groupe. C'était une procédure très étrange. Je commençais à me rendre compte qu'il ne s'agissait pas d'un simple petit groupe de discussion, mais d'une entité bien plus importante. Quelques semaines plus tard, je suis invité à participer à la première réunion. Une fois arrivé sur place, toujours au même endroit, je me retrouve dans le fameux bureau avec une personne différente de la dernière fois. C'était un homme d'une cinquantaine d'années. Il commence à me poser des questions assez personnelles et à me demander des choses étranges. Il m'explique que pour valider définitivement ma candidature dans leur assemblée, je dois passer un test ultime. Ils doivent me bander les yeux et pendant une trentaine de minutes, ils vont me faire vivre des expériences qui, selon ses propos, vont me faire passer de l'ombre à la lumière. Je ne comprenais pas grand-chose de ce qu'il me racontait, mais je n'avais pas été jusqu'ici pour renoncer maintenant. Il m'a donc bandé les yeux et m'a dirigé dans une autre pièce que je ne peux pas vous décrire car je ne voyais plus rien. L'expérience a duré une trentaine de minutes. Il ne s'est rien passé de particulier en soi. J'étais assis sur une chaise, je sentais des frottements sur ma peau comme si on me chatouillait avec une plume. J'entendais des bruits bizarres d'enfants qui pleurent ou de femmes qui hurlent. Les 30 minutes écoulées, on me redirige à l'extérieur de la pièce et on me débande les yeux. Je me retrouve en face de cet homme de 50 ans dont je ne connais toujours pas le prénom. Il me félicite et me souhaite la bienvenue dans leur assemblée. Un mois plus tard, on m'appelle pour me dire qu'une nouvelle réunion va se tenir avec l'assemblée. Ce sera mon baptême. Je retourne dans ce fameux hôtel particulier à Paris où se tiennent toutes les réunions. On m'invite à entrer dans une grande salle qu'ils appellent le temple. Je découvre alors, avec stupéfaction, une vingtaine de personnes habillées d'une longue cape noire, le visage complètement masqué. Ils étaient répartis de manière équitable sur la gauche et la droite de la pièce. J'étais tout au bout avec en face de moi ce fameux homme de 50 ans que j'ai déjà vu deux fois. La cérémonie commence, ils me présentent aux autres et ils me souhaitent tous la bienvenue. Pendant environ une heure, ils m'expliquent le rôle et le but de ce comité. Selon lui, l'objectif est de se développer personnellement et professionnellement. Nous sommes tous des frères et nous devons nous entraider. Une fois que l'on a rejoint cette assemblée, on ne peut plus en sortir. C'est définitif. La confiance doit être très importante les uns envers les autres, et la trahison pourrait conduire à la mort. Il explique également qu'il connaît beaucoup de secrets sur moi ainsi que sur tous les autres membres et qu'il n'hésitera pas à s'en servir pour me détruire si jamais je cherche à quitter l'assemblée ou à divulguer certains secrets. Une fois que tous les autres membres auront retiré leur masque et que j'aurai vu leur visage, je ne pourrai plus revenir en arrière. Je serai définitivement membre de ce qu'ils appellent la révolte. Un par un, ils enlèvent tous leurs masques. Je découvre alors qu'il y a autour de moi beaucoup d'hommes politiques connus, des hommes d'affaires, ainsi que des journalistes célèbres. J'étais très impressionné, mais bien évidemment, je ne dis pas un mot. Je ressentais une grande satisfaction. J'avais l'impression que je venais d'entrer dans un cercle très privé et prestigieux. Sans le savoir encore, je venais d'entrer dans l'une des plus grandes sociétés secrètes du monde, plus connue sous le nom de la secte du diable. Ils étaient tous très gentils avec moi. C'était assez intimidant d'ailleurs, mais je me suis senti très vite à l'aise avec eux. J'avais l'impression d'avoir une deuxième famille. Au fil des années, j'ai découvert la véritable identité obscure de cette secte. Elle est présente partout dans le monde, dans chaque grande capitale. Elle regroupe les hommes et les femmes les plus influents de la planète. Nous avons une véritable influence sur la société. Les décisions politiques, économiques, nous contrôlons absolument tout ce qu'il se passe dans le monde. Notre existence est tenue secrète. Nous avons tous fait preuve de fidélité et de confidentialité les uns envers les autres. D'ailleurs, je prends des risques à vous en parler. Si un jour je suis démasqué, je me ferai tout simplement tuer. Toute ma vie a changé. Je suis maintenant un homme riche et j'occupe une place politique très importante en France. Je vais bien sûr ne pas vous en dire plus pour ne pas me mettre en danger. L'avenir me fait très peur. Si vous saviez tout ce qu'il se prépare, vous seriez terrorisé. D'ailleurs, la situation que l'on vit actuellement n'est pas le fruit du hasard. Beaucoup de choses effrayantes se préparent.
C'était une très grande maison avec une atmosphère particulière. Mon beau-père travaille dans l'immobilier et nous avions l'habitude d'acheter régulièrement de nouvelles maisons pour les revendre quelques années plus tard. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai donc beaucoup déménagé étant petit. Mais il y a une maison qui m'a plus marqué que les autres. À l'étage, il y avait 6 chambres. Un long couloir sombre permettait d'y accéder. Il n'y avait pas de fenêtre et uniquement une seule ampoule au milieu. Alors autant vous dire que quand j'allais dans ma chambre, c'était toujours la boule au ventre. Car en effet, le fond du couloir était complètement sombre et on ne voyait pas le mur du fond. Il semblait infini. C'était souvent que j'entendais des bruits de grattements contre les murs alors que j'étais seul à la maison. Pendant les nombreuses années où nous avons vécu dans cette maison, je n'ai jamais osé aller jusqu'au bout du couloir. Même quand j'allais dans ma chambre ou dans la salle de bain, je regardais toujours le sol par peur de tomber nez à nez avec quelque chose de terrifiant. Bon, en même temps, j'étais jeune et j'avais beaucoup d'imagination, car au final, je n'ai jamais rien vu de particulier. Ce n'est que quelques années après que j'ai découvert ce qui n'allait pas dans ce lieu. C'est beaucoup plus subtil et inconscient que vous ne pouvez imaginer. Durant toutes ces années, malgré mon jeune âge, j'avais un ressenti bizarre ici. Je me sentais pas totalement à l'aise et pas totalement seul. Ma mère, que maintenant vous connaissez grâce aux épisodes sur la sorcellerie, était du même avis que moi. Elle ressentait plusieurs présences dans la maison, pas forcément très rassurantes et bienveillantes. Nous y sommes restés 4 ans au total. Durant les 2 premières années, il ne s'est rien passé de particulier. Ce n'est que quelques mois plus tard que tout a commencé. Comme je vous l'ai dit, au début, nous n'étions pas inquiets. Il y avait des tapements dans les murs. Nous pensions que c'était les vieilles canalisations. Nous nous réveillons souvent en pleine nuit sans aucune raison. Mais là encore, pas d'inquiétude particulière. C'était des petits événements étranges mais sans gravité. Un jour, j'ai regardé un film d'horreur qui parlait de l'éveil du monde des morts. Les esprits et démons se réveilleraient à une heure bien précise de la nuit pour venir nous hanter. J'ai tout de suite fait le rapprochement avec ce qu'il nous est arrivé, ma mère et moi. Du coup, j'ai fait des recherches sur internet pour approfondir le sujet. Je suis tombé sur plein de sites terrifiants. Vous savez ce qu'est l'heure du diable ? Selon la légende, c'est la nuit à 3h30 du matin que le monde des morts se réveille pour venir hanter celui des vivants. Cette découverte m'a fait froid dans le dos pour la simple et bonne raison qu'avec ma mère, nous étions réveillés très régulièrement en pleine nuit à 3h30 du matin. C'est alors que les choses ont pris une tournure complètement différente. Un événement qui nous paraissait banal et sans gravité est devenu une source d'angoisse et de terreur quotidienne. Peut-être que c'était simplement le fruit du hasard, mais quand cela se produisait 3 fois dans la semaine, c'était quand même très étrange. Pourquoi nous nous réveillons à 3h30 du matin sans aucune raison? Toujours à la même heure fixe, l'heure du diable. C'est à cette période que j'ai commencé à faire des terreurs nocturnes. J'avais du mal à m'endormir. J'avais peur que la maison soit habitée par un phénomène qui nous dépasse. J'avais peur de tomber nez à nez avec quelque chose de terrifiant. Je passais le plus de temps possible avec le reste de ma famille dans le salon. Et quand venait le moment de dormir, c'était un vrai cauchemar et une appréhension totale. Ce qui m'a le plus traumatisé, c'est quand ma mère m'a raconté ce qui lui est arrivé une nuit. En plein sommeil, elle a eu la sensation que quelqu'un était assis sur son lit. Elle m'a même dit qu'elle entendait sa respiration. Elle s'est réveillée brusquement et bien sûr, il n'y avait personne. Elle était seule dans sa chambre. Et en regardant son réveil, il était 3h30. Ça a d'ailleurs été le déclic qui nous a poussés à partir de cette maison. Du jour où nous avons déménagé, ce phénomène s'est arrêté aussitôt, et il ne s'est jamais reproduit jusqu'ici. Quand je repense à cette époque, j'en ai encore des frissons dans le dos. D'imaginer que ma maison était tentée par un démon qui venait nous rendre visite la nuit et qui avait une influence sur nos esprits. C'est terrifiant.